Décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 6, salut Manu.
Salut Mag.
Salut Nico.
Salut Luc.
Eh bien, de nouveau, tous les quatre, ça va devenir une habitude. Au sommaire.
5 petits articles, mais sympathiques quand même.
Alors, Numérama, la Cour des comptes reconnaît l'intérêt du logiciel libre, par Julien Lausson.
Et plein d'autres articles qui parlent du même sujet, parce que c'est le gros sujet de la semaine, dont on va parler après.
ZDNet France, directive droit d'auteur versus logiciel libre, une députée interroge la ministre de la Culture, par Thierry Noisette.
Alors ça descend, c'est les questions au gouvernement, et effectivement, il y a une députée qui prend son bâton de pèlerin et qui s'intéresse au droit d'auteur et à ses conséquences. C'est plutôt pas mal.
C'est quoi le nom de la députée? Parce que si elle fait des choses bien, autant la nommer.
Alors, c'est Sabine Rubin.
Alternative économique, Isabelle Delannoy. L'économie symbiotique produit une autre croissance, par Catherine André.
Alors, super intéressant. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce genre de choses. Je crois que c'est une ingénieure agronome qui discute et qui présente une croissance économique, mais en prenant d'autres concepts et en prenant des concepts qui viennent notamment de l'agronomie, de la culture et de la vie, de la biologie en général. Donc, c'est une orientation très symbiose de tout ce qu'on peut faire économiquement en construisant de la complexité et en permettant aux gens de faire eux-mêmes des choses qui d'habitude viennent d'en haut. C'est super intéressant. Vraiment, allez jeter un œil.
Et surtout qui promue la qualité plutôt que la quantité.
Ah
quoi.
Oui, oui, c'est un des points qui est mis en avant.
C'est bien la symbiose, hein, ça fera un bon nom d'émission de radio.
ZDNet France, l'open source à 20 ans, comment cette philosophie a-t-elle révolutionné la programmation, par J. Vaughan Nichols.
Donc c'est une continuation du sujet de la semaine dernière, effectivement, ce sont les 20 ans de l'open source dont on a parlé, et l'open source, le terme en tout cas, a été créé par une femme, donc il a été repris par pas mal de monde, en tout cas, et là il y a encore des articles qui sortent là-dessus.
Et le dernier article dans Libération, que reste-t-il des utopies du net, par Amel Guiton.
Donc ça reprend un Américain, un essayiste, John Perry Barlow, qui avait publié la déclaration d'indépendance du cyberespace. Ça a fait des petits, beaucoup de gens en ont pris note et se sont un petit peu basés dessus pour construire l'Internet d'aujourd'hui, dans une certaine mesure.
Le gros sujet de la semaine, c'est le rapport de la Cour des comptes, comme tu le disais Manu.
Le sujet énorme, la bombe, il y a eu plein d'articles cette semaine, c'est le gros truc dont moi je ne m'attendais pas. Quelque chose de très positif, enfin, une institution majeure fait toute une analyse de ce qu'il faut faire en informatique, et ça parle de logiciel libre.
Et la Cour des comptes, c'est la Cour qui fait des rapports budgétaires en disant « vous avez trop dépensé », c'est ça?
C'est exactement eux.
Et qui est plutôt bien écouté d'habitude.
Voilà, et c'est pas que vous avez trop dépensé, c'est qu'ils vont faire des analyses en disant « vous bossez comme des cons, vous pouvez faire beaucoup mieux », etc.
C'est pas rentable,
c'est pas simplement « ça coûte trop cher ». Et c'est des gens plutôt brillants qui sont dans ce truc-là.
Alors, je rajouterais, ils sont très écoutés, mais ils n'ont aucun pouvoir officiel.
Mais du coup, le fait que eux, qui sont quand même ceux qui sont les spécialistes de l'argent, nous disent que le logiciel libre serait mieux que du propriétaire, c'est bon signe pour nous, non?
Ah bah, il faut écouter.
Alors, ils disent ça, ils disent plein d'autres choses très intéressantes.
Oui, c'est pas le truc majeur, hein, c'est pas l'argent qui est le premier truc de tous.
Alors, ils en parlent quand même, mais par rapport au libre, c'est pas l'argument qu'ils mettent en avant, et c'est ça qui est vachement intéressant.
Alors, c'est quoi qu'ils mettent en avant?
Bah, ça va surtout être la partie consolidation et mutualisation des efforts, que plutôt que d'avoir 40 000 logiciels de développer chacun dans leur coin par des équipes différentes.
Alors, ça touche à l'argent pour le coup.
Parce ça touche que aussi à l'argent, indirectement.
Ça en touchera forcément.
Mais là, le but, c'est vraiment avec le logiciel libre, on peut avoir un socle commun où tout le monde va capitaliser dessus, plutôt que de s'éparpiller auprès de 40 000 prestataires et d'avoir des coûts cachés partout. Quoi.
On parle de l'État, des administrations, mais potentiellement des collectivités aussi. Hein.
Oui, effectivement, et même des services sociaux de type sécu, etc. Et ce qu'ils mettent en avant par rapport au libre, c'est que pour eux, c'est un puissant facteur d'efficience et d'influence, et qui représente d'abord un enjeu de sécurité et de souveraineté. Donc, ils sont pas en train... Alors, ils parlent quand même d'efficience, donc derrière l'efficience, il y a de l'argent, forcément. Mais c'est aussi le pouvoir de faire des choses, et donc de réussir à faire des trucs qu'on pourrait pas faire autrement. Et également, cette question de souveraineté et de sécurité. Et donc, la Cour des comptes qu'on attend sur la question du pognon, c'est pas l'argument premier qu'elle met pour le logiciel libre.
Il n'y avait pas aussi comme quoi il fallait former les gens, les fonctionnaires, et les garder, les aider à s'améliorer.
Il y a toute une discussion sur l'expertise, la perte d'expertise, notamment quand ils externalisent tous les services et toutes les capacités informatiques. À un moment donné, c'est les experts qui dirigent. C'est les experts externes qui dirigent et qui contrôlent tout ce qu'on fait.
Et qui sont généralement pas des experts, mais plutôt des commerciaux. Hein. Ils vont vendre leur soupe pour arriver à faire monter le prix plutôt que de trouver des solutions techniques efficaces et qui répondent aux problèmes.
Et puis ils vont essayer de faire rentrer le besoin dans leur produit. C'est-à-dire qu'ils ont un produit qui fonctionne, ou plus ou moins, qui est celui qui a été, voilà, qui a été vendu. Et donc, du coup, tout va être orienté pour rentrer dans le produit du prestataire. Et puis, bah, tu vas faire fructifier ton contrat pendant un certain temps. Et en face, tu as des fonctionnaires qui ne comprennent pas ce qui se passe parce que c'est pas leur métier. Et qui, du coup, à part dire oui à un prestataire, ils ont pas vraiment de moyens, quoi.
L'État devient une vache à lait. Il y a rien d'autre à dire.
Et donc, perd le pouvoir sur son informatique. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce qu'ils écrivent, c'est que l'informatique, c'est un moyen d'accélérer plein de choses et c'est un moyen d'avoir vraiment du pouvoir. Et en gros, en disant, on a plein de choses qui sont en train de changer la société, donc il faut que l'État change fondamentalement en intégrant ça.
Et donc, il s'adresse à qui exactement ?
Il s'adresse à la DINZIC et à ce qu'ils appellent la start-up d'État. C'est d'arrêter d'externaliser des entreprises tiers, c'est à faire du logiciel propriétaire et... Enfin, tous les travers qu'on connaît, pour les externaliser en interne et avoir une espèce de...
Les externaliser en interne
Réinternaliser.
C'est les réinternaliser pour donner, en fait, avoir quand même un groupe qui, du coup, serait la DINZIC ou peut-être autre chose.
La DINZIC, hein, c'est Direction Informatique des Services.
Direction Interministérielle du Numérique et du Système d'Information et de Communication de l'État.
Pas mal.
C'est la DSI de l'État, en gros, et aujourd'hui, ils font pas grand-chose, à part quelques conseils ou essayer d'orienter plus la chose.
Ils font pas grand-chose, je trouve que t'exagères.
Enfin, en tout cas, c'est pas eux qui développent. Ils conseillent et c'est pas eux qui font les développements des gros logiciels qui ont beaucoup merdé, qui sont cités d'ailleurs comme Louvois. Ouais. Ou...
La Cour des comptes alors, a quand même reconnu d'avoir fait pas mal de choses, notamment sur la mutualisation des infrastructures réseau informatique. Donc en disant la DINZIC a fait pas mal de choses.
De faire des recommandations. La DINZIC fait un référentiel.
Il s'était notamment distingué lors du départ en retraite du patron de la DINZIC.
Qui avait déprécié Microsoft.
Du référentiel.
Alors, général d'interopérabilité. Donc c'est le document qui dit voilà en gros les formats qu'on a le droit d'utiliser, avec lesquels on peut pouvoir utiliser plein de logiciels différents.
Dans les administrations.
Et ils avaient mis aussi beaucoup en place l'ouverture des données avec l'open data qu'ils ont beaucoup encouragé.
Oui. Ça fait partie de la chose. Et d'ailleurs, je me demande s'ils en parlent. Faudrait creuser un petit peu.
Mais du coup, la DINZIC n'a pas cette capacité de développement de logiciels ou autres qui aujourd'hui se retrouvent dans des boîtes externes. Et là, c'est peut-être la Cour des comptes qui dit bah, il faudrait peut-être quelque chose justement pour faire ce développement et accompagner cette mutualisation et les bonnes pratiques, comment on arrête de faire des projets qui durent 10 ans et qui, quand on les livre, ne servent à rien.
On peut en citer quelques-uns dans les projets qui nous ont coûté une fortune.
Alors, Louvois.
Louvois est sans doute un des plus jolis.
Voilà. C'est quoi Louvois ?
C'était le gestionnaire de paye de l'armée, ou plutôt de la non-paye, puisqu'en fait, ils n'arrivaient pas à payer les soldats. Il y a eu des payes qui n'étaient pas livrées, pas calculées correctement, ou pas soldées. Enfin, c'était
un vrai catastrophe. Qui se sont endettés parce qu'ils n'étaient pas payés.
Ouais, mais la paye, c'est compliqué quand même. Hein.
C'est compliqué, le logiciel qui a été démarré quand est terminé et livré quand
Alors, il a été commencé en 96, il a été livré en 2006, et ça marchait juste pas. Et encore aujourd'hui, on en paye les pots cassés, donc c'est quasiment
Sachant qu'il était quasiment obsolète avant d'arriver, parce qu'il voulait déjà refaire un logiciel des payes.
J'avais lu qu'au démarrage du projet, il y a eu un audit qui a dit « ça ne marchera pas ». Et en fait, comme personne n'était vraiment responsable de rien du tout, et d'ailleurs, il y a eu des enquêtes, ils ont dit « faute collective, personne n'est responsable ».
Donc,
ça coûtait une fortune. Et donc, en gros, on savait dès le début que ça allait planter, et on y est quand même allé. Ça coûtait combien, Nicolas ?
Le prix de départ était à 46 millions, et je crois qu'ils ont dépassé plus de deux fois le budget, avec 93 millions de dépassements.
Voilà, donc ça, c'est juste le budget, donc il doit y avoir des tas de coûts annexes et de frais cachés. Donc,
et on peut supposer qu'il y a plus de 100 millions d'euros. Plein de gens qui travaillent en externe, et là, c'est la vache à lait, rebelote. On va voir l'État avec des factures, l'État paye facilement.
Voilà. Donc, des projets qui durent...
Alors, ils ont l'air de dire qu'en moyenne, c'est 6 ans entre le démarrage d'un projet et sa livraison. Et 6 ans en informatique, autour de la table, c'est trop tard, quoi. Les technologies choisies sont déjà obsolètes 6 mois après le démarrage du projet.
Et en plus de ça, les chefs de projet changent. Donc du coup, c'est difficile de...
Voilà. En termes de compétences, ça doit être très difficile à garder.
La Cour des comptes indique que les projets qui durent plus de 3 ans en informatique, ceux de l'État en tout cas, ont 50% de chances de planter. Donc à 6 ans, on se doute que ça augmente encore plus.
Non, mais par contre, on peut se tourner vers le côté des bonnes nouvelles, puisqu'il y a plein de villes comme Nantes, Rennes, qui développent elles-mêmes du logiciel libre, donc qui correspondent réellement à des besoins, et qu'elles pourraient partager avec l'État et avec d'autres villes.
Elles le font déjà plus ou moins. Moi, je pense à OpenMairie, qui fait toute une
une suite de logiciels
Open
avec
Cimetière
un... Exactement, Open Cimetière, ça je veux dire, c'est la fête.
Il y a plein d'autres logiciels qui sont développés par les mairies qui ont participé au territoire des labels numériques et qui pourraient être partagés avec toutes les autres mairies.
Et puis même s'ils refont...
Le fait qu'ils le sont, c'est si c'est du libre, les autres mairies peuvent...
Les autres mairies pourraient le faire, à condition qu'elles sachent que ça existe, qu'elles sachent qu'elles puissent l'utiliser et que ce soit préconisé par la DINSIC.
Puis même s'ils développaient des logiciels depuis zéro, plutôt que de se repartir sur des bases déjà existantes, ça permettrait de mutualiser que si un prestataire justement s'arrête ou on peut passer la balle au suivant sans avoir besoin de racheter l'intégralité des brevets ou autre. Les technologies sont plutôt dans le monde du libre, sont plutôt connues, maîtrisées, et si on passe le bébé au voisin, il sera capable de s'en sortir. Alors que prenez un logiciel développé par Sopra, filez-le à Thales, ils en feront rien du tout, quoi.
Alors, rappelons que tout ça arrive dans un moment où il y a des administrations françaises qui ont fait des accords, des gros accords avec des entreprises notamment américaines, Microsoft Irlande en particulier.
Voilà, alors on peut parler de l'accord Open Bar Microsoft Défense.
Et éducation nationale.
Et la santé.
Et la santé, oui, qui est en ce moment en train d'être fait, il me semble.
Donc un certain nombre d'accords qui sont passés sans appel d'offres, où l'État participe à l'évasion fiscale en payant directement Microsoft Irlande. Oui.
Alors que les experts concernés par ces sujets avaient dit que surtout il ne fallait pas passer sur du Microsoft en mode Open Bar, et alors qu'il semblerait, les documents qui sont sortis, les ministres concernés étaient d'accord pour passer au libre au tout démarrage de la procédure.
Et puis après, le changement de ministre.
Et donc, il y a d'autres choses de genre là. Et Talab commence à proposer des logiciels qu'ils mettent en avant. Est-ce que les start-up de la nation qui sont recommandées par le rapport, vont pouvoir avancer en mode agile en utilisant un petit peu les technologies à mettre en commun? Il y a peut-être même à travailler avec d'autres pays. Je sais que le Québec et le Canada, ils travaillent aussi sur ces sujets-là. Et on en a reparlé. Barcelone, les grandes villes européennes, elles se tâtent, elles réfléchissent à prendre.
Barcelone, ils font plus que se tâter là.
Barcelone, ils ont l'air de partir vent en poupe.
Alors, l'intérêt, tu disais Manu, à la Cour des comptes, a peu de pouvoir, voire pas de pouvoir du tout, mais quand elle dit un truc, ça fait en général un petit peu mal, et la DINSIC a un petit peu de pouvoir, mais pas tant que ça, puisqu'on voit qu'effectivement, il y a des ministères qui font un peu ce qu'ils veulent derrière, mais disons que c'est de plus en plus compliqué de faire ce qu'on veut quand ça commence à tirer dans tous les sens en disant « vous faites n'importe quoi ».
Et surtout de la Cour des comptes qui est quand même bien entendue, et voilà. Qui, c'est un gros coup d'arrêt quand même.
Vous faites n'importe quoi, ça marche pas, et ça coûte de l'argent.
Voilà, il y a eu des réactions.
En tout cas, dans les réactions qu'on a pu voir, notre Premier ministre Édouard Philippe et son secrétaire d'État chargé du numérique Mounir Majoubi ont lancé un plan d'action public 2022.
Oui, bravo. Donc comme quoi, je pense qu'ils ont dû être tenus au courant un petit peu en avance en se disant qu'il faut qu'on ait quelque chose à proposer.
Ils ont proposé
ça consiste
quoi
en quoi ce projet?
Ils ont proposé 700 millions pour la modernisation administrative. En gros, sur 5 ans, 700 millions, pas une année, ils vont étaler ça sur plusieurs années. Et le but, ça va être de faire des appels à des projets, parle de mobile aussi.
Quoi,
voilà, de simplifier l'accès aux services. En tout cas, ça doit être accessible à tous. Bref, il y a plein de choses à découvrir et c'est sur 5 ans. Et
sachant qu'ils vont avoir du boulot, puisqu'il y a des textes de loi qui commencent à passer où tous les codes développés par les administrations vont devoir être publiés ou autre. Donc il va y avoir de la centralisation à faire et de l'organisation autour de tout ça. Et donc je pense que cette enveloppe-là va servir à ça.
Il y a deux projets dont on a régulièrement parlé qui sont toujours intéressants à rappeler. C'était le projet pour la sélection des étudiants après le bac.
Parcoursup.
Exactement. Et les impôts, le calcul des impôts qui a donné lieu à toute une ouverture de code un peu compliquée. Il y a eu des hackathons autour du sujet organisés avec des gens de l'Étalab.
Je crois avoir vu passer, mais on sera vérifié que sur Parcoursup, ils viennent de voter un truc en disant...
Ils veulent l'arrêter.
Ouais, on va fermer tout ça. Ce qui montre que c'est loin d'être gagné. Et c'est là où ce genre de décision est super importante. Parce que, comme on le disait, l'État, c'est pas un monolithe. Et on a des gens partout qui sont pro-libre et pour ce genre de choses.
Et qui ont une vision à long terme.
Et qui ont une vision à long terme, effectivement. Et qui se battent au quotidien dans les administrations ou dans les entreprises. Mais dans les administrations, ce genre de décision, pour eux, c'est un argument extrêmement fort. Et donc, même si la Cour des comptes n'a pas de pouvoir, ça va donner des billes à tout plein de gens pour réussir à faire changer les choses.
Un peu comme l'avait fait la circulaire Hérault quelques années.
Voilà. Ce que je trouve vraiment très intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une vraie vision d'organisation, même une vision sociale, puisque en gros, dans leur rapport, ils disent qu'il faut mettre le paquet sur la formation et que les fonctionnaires soient formés à l'informatique, à la gestion des projets, utiliser des méthodes pour leur boulot de tous les jours qui sont des méthodes issues de l'informatique. Il y a plein de méthodes d'organisation et de travail en commun qui sont très efficaces en informatique et dont on peut s'inspirer dans notre boulot de tous les jours. Et donc, ils sont vraiment en train d'appeler une sorte de révolution organisationnelle et de travail avec cette idée qu'il faut que...
L'outil informatique, hein.
Oui, mais aussi que les... il l'avait évoqué par rapport au logiciel libre, avec cette idée que ce soit un puissant facteur d'efficience et d'influence, en disant que les administrations devaient gagner également en termes d'attraction, c'est-à-dire donner envie aux gens de venir bosser dedans. Et donc pour ça, c'est leur donner les moyens d'eux, du pouvoir sur leur boulot, etc. Et donc sortir du truc bien bureaucratique. Et c'est quand même super puissant comme projet, quoi. C'est une vraie vision, un vrai programme, quoi.
Je pense qu'en plus, ça tombe bien parce qu'il y a Emmanuel Macron qui est en train d'annoncer des réformes sur les administrations. Ça peut se combiner. Je pense qu'il parle même de faire un big bang des administrations avec le renouvellement des fonctionnaires ou le non-renouvellement. C'est un petit peu compliqué, non, comme sujet. Mais
ça sent la manifestation devant la librairie. Ça.
Alors tout ça arrive, à mon avis, sur un même temps. Ça peut faire des étincelles.
En tout cas, voilà, la bonne surprise.
L'énorme surprise.
La considérable surprise.
Oui. Nicolas, tu as un superlatif.
Non, comme ça, j'ai pas de superlatif.
Ah bon, ok. Eh bien, on va s'arrêter là.
À la semaine prochaine.
Salut.
Bonne semaine à tous.